Comme chaque jour de la semaine, place maintenant au Journal des Amériques et d'Haïti. Avec vous, Anne Verdaguer, bonjour.
Bonjour Gilles et bonjour à tous. Au sommaire, aujourd'hui on va parler du blocage politique en Haïti avec une nouvelle tentative de dialogue de la part du président Jovenel Moïse qui a essayé de réunir hier les représentants de plusieurs secteurs de la société civile. Tentative avortée, on vous dira tout dans un instant avec Godson Pierre d'Alter Press. Le lancement de la campagne électorale du président américain aux États-Unis, Donald Trump sera devant 20 000 partisans ce soir à Orlando en Floride pour annoncer qu'il se représenterait. On verra les atouts et les faiblesses du président sortant avec notre invité Jean-Éric Brana. Et puis ce sondage dans le Miami Herald qui montre que la crise politique au Venezuela qui perdure profite au président Nicolas Maduro. On en parlera dans la revue de presse avec Stéphanie Schuller.
RFI à Port-au-Prince, 89.3 FM.
On commence donc avec cette situation de blocage en Haïti. On retrouve Godson Pierre d'Alter Press. Incertitude donc après une réunion avortée hier à la présidence.
En effet, alors que des initiatives sont annoncées pour essayer de trouver une issue à la crise, l'impasse persiste. On est sans nouvelles de la dernière tentative hier du président Jovenel Moïse d'organiser en sa résidence privée un round de discussion avec les représentants de quelques secteurs de la société. Le chef de l'État voulait, selon un communiqué, écouter plusieurs personnalités sur la crise, mais finalement tout ce qu'on sait, c'est que plusieurs d'entre elles n'ont pas jugé j'ai bon de prendre part à ces discussions. De plus en plus d'organisations sectorielles appellent à la démission de Jovenel Moïse, accusé de corruption et d'incompétence, dans un contexte de manifestations à répétition et de troubles dans plusieurs régions du pays. Parallèlement, quelques organisations politiques tentent de fédérer des points de vue autour de quelques propositions de sortie de crise qui peinent à faire l'unanimité.
Et les partisans du pouvoir, Godson, ne restent pas les bras croisés, ils vont se mobiliser aujourd'hui.
Jusque-là, il y avait peu de voix à exprimer leur appui au président en difficulté, à part quelques conseillers. Mais aujourd'hui, le parti au pouvoir essaie de mettre au point une offensive. Des partisans et sympathisants du parti haïtien Tête Calée sont appelés à manifester dans les rues de la capitale en appui à Jovenel Moïse et pour exiger un procès impartial sur la gestion des fonds Pétro-Caribé de l'aide vénézuélienne à Haïti. Il s'agit de 4,2 milliards de dollars largement détournés selon un rapport de la Cour supérieure des comptes, un rapport qui épingle entre autres le président Moïse et deux de ses firmes, ce qui est à la base de la mobilisation continue à laquelle on assiste depuis des mois. Non Pape Domi, le collectif qui a convoqué les récentes manifestations à Port-au-Prince, propose la mise en place d'une transition appelé 4R, un gouvernement qui marquera la rupture avec les pratiques politiques, économiques et antipopulaires du passé, le redressement des institutions publiques, la redynamisation de l'économie et la rigueur dans la gestion publique, peut-on lire sur le compte Twitter de ce groupe de Petro Challenger.
Merci Godson Pierre. On vous retrouve dans un instant. La presse haïtienne s'inquiète aujourd'hui, Stéphanie Schuller, de la tournure violente que prend la mobilisation en Haïti.
Oui, à l'instar du Nouvelliste qui souligne que la violence, qu'elle vienne des forces de l'ordre contre les manifestants ou des manifestants contre de paisibles citoyens, est condamnable. Les manifestants, comme les forces de l'ordre, doivent savoir que la violence et la peur qu'elle engendre ne donnent pas toujours les résultats escomptés, sinon le régime des Duvaliers serait toujours en place, rappelle le journal. Le journal Le National s'inquiète également d'un durcissement des méthodes, notamment du côté des manifestants. Des méthodes qui ne se basent plus sur l'adhésion volontaire et spontanée, estime le quotidien. Les appels à la violence se multiplient sur les réseaux sociaux. Des voix ivres de violence appellent à l'assassinat des agents de la police nationale qui tenteraient de rétablir l'ordre dans les rues. La tentation armée refait surface. Et vu le nombre d'armes qui circulent, c'est joué avec des allumettes dans une poudrière, s'alarme l'éditorialiste. Le National pointe du doigt ces nouvelles brigades motorisées et masquées qui font le tour de notre capitale. Ces individus à moto ont sémé la peur ces derniers jours, puisque comme le souligne le quotidien, elles en imposent par leur mobilité et leur habileté à projeter du feu. Mais Il ne faudrait pas que des oiseaux de feu chassent les fragiles hirondelles du renouveau démocratique haïtien. La confusion ne peut que profiter à ceux qui ne veulent pas le changement, estime l'éditorialiste.
Et pour finir cette actualité haïtienne, on retrouve Godson Pierre d'Alter Presse pour la tenue à Port-au-Prince de la grande foire annuelle Livre en folie, Godson.
La crise ne doit pas occulter le livre, pensent les organisateurs de cette manifestation qui débute formellement le 20 juin avec la participation de 178 auteurs et 821 titres. Des activités préliminaires sont en cours en présence de l'invité d'honneur qui n'est autre que l'écrivain d'origine haïtienne Danny Laferrière, membre de l'Académie française. Il a le projet de faire entrer le mot « vertière » dans le dictionnaire français. Confie-t-il, Vertière est le nom du lieu où les troupes napoléoniennes ont été vaincues en 1803 par l'armée indigène, ouvrant la voie à l'indépendance d'Haïti en 1804.
Merci Godson. Direction le Venezuela à présent, Stéphanie, où l'impasse de la crise politique semble profiter à Nicolas Maduro.
C'est en tout cas ce que montre la dernière enquête d'opinion réalisée par Datincor, un institut qui a fait preuve de sérieux tout au long de ses 30 ans d'existence, souligne le Miami Herald. Le Miami Herald, justement, qui publie les grandes lignes de ce sondage aujourd'hui. Un nombre croissant de Vénézuéliens, 41% des 1200 personnes interrogées, reconnaissent Nicolas Maduro comme dirigeant légitime du pays, contre 36% qui estiment que ce qualificatif revient à Juan Guaido. En février dernier, un mois seulement après que l'actuel président de l'Assemblée nationale s'était autoproclamé président par intérim du Venezuela, 49% des personnes interrogées estimaient qu'il était le dirigeant légitime du pays contre 34% qui s'étaient exprimés en faveur de Nicolas Maduro.
En revanche, Stéphanie, ces chiffres ne signifient pas que la popularité du président vénézuélien est en hausse.
Absolument. Si une élection présidentielle avait lieu maintenant, elle serait remportée par Juan Guaido avec 33% des voix. Seuls 16% des votants donneraient leur vote à Nicolas Maduro. Comme le souligne le Miami Herald, ce sondage démontre avant tout la baisse de la popularité de Juan Guaido, qui n'a pas réussi à transformer le soutien de la communauté internationale en pouvoir politique au Venezuela, alors que Nicolas Maduro demeure, lui, extrêmement impopulaire. Et le journal de conclure, ce sondage démontre aussi que les Vénézuéliens sont plus concentrés sur leur survie quotidienne que sur la lutte de pouvoir qui domine les titres de presse.
On part chez les voisins du Venezuela, à la une de la presse équatorienne aujourd'hui, la crise dans les prisons qui se poursuit, Stéphanie.
Une nouvelle attaque mortelle a eu lieu dans la prison de Guayaquil, annonce El Universo. Guayaquil est une ville du sud-ouest du pays sur la côte pacifique. C'est là que deux détenus ont été tués hier à l'arme blanche dans leur cellule par quatre co-détenus. Comment les détenus ont-ils été capables de se munir de ces armes alors que deux postes de contrôle ont été installés, l'un à l'extérieur de la prison, contrôlé par l'armée, et l'autre à l'intérieur du centre pénitentiaire, géré par la police, s'interroge le quotidien. Des vidéos des corps sans vie des deux détenus assassinés hier ont été postées sur les réseaux sociaux, vidéos filmées par d'autres détenus qui pourtant ne sont pas censés avoir accès à des téléphones portables.
Le 16 mai dernier, Stéphanie, le gouvernement équatorien du président Lénine Moreno avait pourtant déclaré l'état d'urgence dans le système carcéral du pays.
Oui, un système qui souffre, Anne, de la grave surpopulation dans les prisons, rappelle la Hora, et dans les colonnes du journal El Telégrafo. Le directeur de l'institution en charge des prisons équatoriennes explique qu'un meilleur contrôle des détenus est impossible dans l'état actuel des choses. La raison ? La technologie et le matériel existant pour exercer ces contrôles sont complètement obsolètes et doivent être remplacés d'urgence. Depuis la déclaration de l'état d'urgence dans les prisons du pays il y a un mois, 11 détenus ont été tués, 19 depuis le début de cette année.
Merci Stéphanie Schuller pour cette revue de presse des Amériques. part aux États-Unis. C'est aujourd'hui que Donald Trump va officiellement lancer sa campagne électorale en annonçant sa candidature à sa propre réélection. Pour cela, il a choisi la Floride, un état clé qu'il avait remporté lors de l'élection de 2016 et où se dérouleront la semaine prochaine des débats entre les 20 candidats démocrates à la présidentielle. À 73 ans, l'actuel locataire de la Maison Blanche a souvent fait part de son impatience d'en découdre, de replonger dans la bataille électorale. Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'université Panthéon-Assas, spécialiste de la politique et de la société américaine, nous parle des atouts et des faiblesses du président sortant. Il est au micro de Sylvie Noël.
Les atouts sont très nombreux. Aujourd'hui, on va le dire assez clairement, c'est lui qui a la cote. D'abord, c'est le président sortant. Et aux États-Unis, être le sortant, c'est un très gros avantage parce que on a la stature du président, mais surtout on a la notoriété. Or, la notoriété aux États-Unis, c'est ce qui vous fait élire quasiment. Le pays est tellement grand et cette fois-ci, en plus, il y a tellement de candidats que pour avoir la chance que quelqu'un prenne votre nom le jour du vote, eh bien, il faut d'abord qu'il le reconnaisse. Et c'est évidemment l'avantage Donald Trump. Ensuite, bien sûr, le très gros avantage dont tout le monde parle actuellement, sont les très bons chiffres qu'il y a au niveau de l'économie. L'économie, c'est ce qui fait tout, expliquait Bill Clinton en son temps. Et depuis, cette légende est tenace. Donc, on va partir sur cette légende pour se dire qu'il pourrait être réélu. Moi, je pense que cette fois-ci, la légende risque de tomber et que ça risque d'être un peu plus compliqué.
C'est pas nécessairement gagné, finalement.
Non, c'est pas nécessairement gagné. Alors, encore dans les avantages, et pour arriver à ces désavantages, on peut parler de ces supporters, cette cote de popularité qui est entre 40 et 43%. Et j'ai maintes fois dit à votre micro que cette popularité ne bougeait pas, même quand on nous expliquait qu'il s'achutait brutalement. En réalité, s'achutait de 1 ou 2 points, ce qui, pour un autre président, n'émeut personne. Et on n'en parle même pas. Pour Donald Trump, on expliquait qu'il y avait une chute vertigineuse. Non, ça ne bougeait pas, c'est une ligne droite. Et ça, c'est un phénomène qu'on n'a jamais observé avec aucun président des États-Unis. Donc, on a parlé de stabilité de sa base, qui est en béton armé. Et en même temps, on va commencer à regarder ça de façon plus fine aujourd'hui et on va commencer à s'apercevoir que s'il y a stabilité, il y a aussi stagnation. Car, par exemple, l'affaire Mueller nous l'a montré de façon très exemplaire, alors qu'il a été exonéré de charges très lourdes, à savoir conspiration contre les États-Unis, ce qui n'est pas rien, eh bien, il n'a pas gagné 1% dans les sondages à la suite de cette exonération. Même s'il y a une polémique derrière, ça n'explique pas, en tout cas, que sa cote ne décolle pas. Mais il y a un phénomène aujourd'hui dans la société américaine, c'est que 52 à 56% des Américains le rejettent, quoi qu'il fasse, n'écoutent pas ce qu'il dit. Et ça va devenir un vrai handicap pour Donald Trump. C'est la première des raisons que je mettrai pour expliquer que, certainement, il ne sera pas réélu.
Jean-Éric Brana, maître de conférence à l'Université Panthéon-Assas, spécialiste des États-Unis, au micro de Sylvie Noël. L'actualité des Outre-mer avec le journal La Première Caraïbe présenté par Oda Naji Ali. Bonjour.
Bonjour Anne.
À la une, la dengue de retour en Guyane.
Oui, et ce qui préoccupe l'Agence régionale de santé, c'est surtout l'apparition de cas autochtones du virus transmis par le moustique tigre. Une première depuis des années. Alors à Kourou, où 7 cas de dengue de type 2 ont été détectés, les services de démoustication sont à pied d'œuvre. Hier, 18 agents ont été mobilisés dans la ville spatiale autour des habitations concernées. Les précisions de la directrice de la démoustication et de l'action sanitaire à la collectivité territoriale de Guyane, Sandrine Chantilly, au micro de Léa. Et là, chez Rubin Jeannette.
Ce que recommande l'OMS, c'est que dans l'environnement des malades, il faut avant tout éliminer les moustiques sous leur forme adulte, parce que ce sont eux qui sont porteurs du virus de la dengue. Mais bien entendu, nous menons une action de force. Voilà pourquoi il y a un aussi grand nombre d'agents sur le terrain, à pied, qui progressent par vagues pour balayer l'ensemble de la zone. Parce qu'il faut aussi agir sur les gîtes larvaires, en essayant au maximum d'éliminer l'ensemble des gîtes larvaires et de tuer surtout les larves de moustiques. Parce que même certaines larves peuvent être elles aussi porteuses du virus de la dengue.
Pendant cette opération, près de 500 maisons ont été visitées hier à Kourou, avec toujours les mêmes recommandations de l'Agence régionale de santé. Éviter les gîtes larvaires ou encore bien nettoyer les gouttières et les jardins. La campagne sucrière aux Antilles, c'est fini. Une récolte riche en saccharose cette année, même si la quantité n'est pas au rendez-vous. La faute au manque d'eau ces derniers mois. Résultat, 160 000 000 tonnes vont être récoltées en Martinique. C'est la plus mauvaise récolte depuis 40 ans. Face à cette situation, les planteurs se disent préoccupés, inquiets plus généralement du désengagement du gouvernement envers l'agriculture outre-mer. Charles Larcher, le président du CADEROM, le comité martiniquais d'organisation et de défense du marché du rhum.
Au niveau de la canne, on a fait moins 23 par rapport à l'année dernière. Au niveau du rhum, moins 10. Donc finalement, on a compensé en partie, grâce à la richesse de la canne, le manque de canne. Il est très important que soient prises au niveau de l'État et de la CTM des décisions fortes pour la canne, parce que nous avons un risque de manque de matières premières. On a aujourd'hui, si vous voulez, un contexte un peu particulier avec Paris. On ressent à Paris que nos spécificités sont de moins en moins reconnues. On ressent le fait qu'on fait de l'économie, donc aujourd'hui l'outre-mer ça coûte cher, donc si on peut baisser les budgets de l'agriculture, on baisse les budgets de l'agriculture. Et le troisième point, c'est la libéralisation. On libéralise, et ça nous fait très très peur, nous, au niveau agriculteur. Toutes les filières agricoles aujourd'hui de l'outre-mer sont très très inquiètes du comportement et de l'attitude du gouvernement concernant l'agriculture outre-mer.
Charles Larcher, le président du CADEROM, répondait à Denis Adnet-Louvet. Et puis les îles françaises dans le groupe des pays les plus sûrs de la Caraïbe, selon le New York Post. Le journal se base sur le classement et les alertes établies par le département d'État américain. La Guadeloupe, la Martinique, Saint-Martin et Saint-Barthélemy ne font l'objet d'aucune alerte. Bonne journée.
Bonne journée à vous aussi. Merci beaucoup, Odana Jiali, pour ce journal La Première Caraïbe. Et on termine en musique avec Bel Air de Foro et le titre Avec elle.
J'ai encore le souvenir de mon cœur dans ma cachette. Pendant danser collé au fond de la guinguette, l'accordéon nous a soufflé jusqu'au matin. Ton corps contre les miens, mes envies dans tes pensées. L'accordéon nous a soufflé tous ses amours. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Chaque mélodie, chaque goutte de sueur, chaque break, chaque tour, on funambule de sol en sort. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, ma main frôlant ta peau et nos jambes entrelacées. Dis-moi comment on fait tant tout oublier, j'aime les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. J'aime les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh, mon cœur s'est mis à balancer. À balancer. Dans les vagues de ton corps, mon cœur s'est mis à balancer. La nuit filait, je voulais sans rien voir. Et larmes de tes yeux qui disaient déjà adieu. La nuit filait et tu es parti avec elle. Qui sait vers quelle étoile, vers quel ciel. Qu'aujourd'hui encore, lorsque la corde en s'emballe, je pense au fort. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Eh, eh. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, ah. Mon cœur s'est mis à balancer. Hey, hey. Mon cœur s'est mis à balancer. Dans la frappe du tambour, mon cœur s'est mis à balancer.
Merci d'écouter RFI, c'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. Merci à vous de nous être fidèles. On se retrouve demain 14h10, heure de Paris. En attendant, restez avec nous dans une trentaine de secondes, le retour de l'actualité sur Radio France Internationale.